ラフトレ
Bonjour et bienvenue dans JAF ta mère numéro 29, l'émission de l'association Équité Parentale sur RLP 102.3 FM en Dordogne le vendredi 20h, rediffusé le mercredi suivant 16h, et sur le monde entier sur internet avec les podcasts sur YouTube et les sites internet de l'association. Aujourd'hui au programme, la seconde partie de l'entretien avec le psychanalyste thérapeute Joseph Zudas, un périgourdin bien connu. Une nouvelle intervention de Michel Hamas, mais tout de suite les actualités après ça.
RLP,
Radio Libre en Périgord.
Dans les actualités, nous voudrions vous parler de deux PPL importantes à soutenir et à garder en ligne de mire actuellement. La PPL 3163 qui favorise l'émergence d'un modèle de coparentalité dont nous vous avons parlé, initié par la députée UDI Nicole Sanker de Polynésie et qui a été reprise par la députée IDI Sophie Oconi et dont nous reparlerons avec monsieur Thierry Berger vendredi prochain dans l'émission 30 à ne pas rater. Mais nous voulons également parler de la PPL 628 qui fait ressortir un vieux projet qui est coincé au sein depuis des années, relative à la médiation familiale et au principe de résidence alternée des enfants de parents séparés. Et cette PPL prévoit très clairement une incrimination d'entrave à l'autorité parentale par des agissements répétés ou des manipulations diverses ayant pour objet la dégradation, voire la rupture du lien familial. C'est quelque chose qu'on demande depuis très longtemps. Quand on empêche l'un des deux parents de manière répétée d'accéder à son enfant et de manière volontaire, nous demandons d'ailleurs à ce que ce soit du pénal et que ce soit répréhensible, que cela soit effectué par l'autre parent ou de manière malheureusement parfois de plus en plus fréquente, par des associations composées de bénévoles ou des structures qui viennent, qui s'interposent et qui décident que monsieur ou madame ne peuvent pas savoir où l'enfant est scolarisé, ce qu'il peut faire, où est-ce qu'il loge, comment il va, enfin, qui empêchent très clairement, qui font la brisure du lien parental sans faire partie du service public, sans s'appuyer sur un jugement du juge d'affaires familiales ou du JDE. C'est du pénal, nous voulons que ce soit du pénal, et cette PPL 628 est en train de ressortir par Hélène Conway Mouret, qui est la vice-présidente du Sénat. Cela date du 13 juillet 2020, on a mis un peu de temps à l'avoir passé, mais c'est sur les tuyaux et nous allons suivre cette affaire-ci de près. Dans les autres informations du local par rapport à Périgueux, nous avons envoyé des demandes d'interview à l'École nationale de police, à la magistrature, à la gendarmerie, à l'ARS 24, au Conseil général, à l'association Femmes solidaires, à l'association Soutien 24, à l'association École des parents.org, à l'îlot des femmes, au planning familial, à l'atelier Bergerac, à l'association Excal, à comment ils s'appellent ceux qui sont rue Chancel, l'ASD, et à part, afin de leur demander ce qu'ils pensaient de l'égalité homme-femme dans leur traitement des conflits familiaux. Ben écoutez, d'une manière extrêmement bizarre, nous avons eu très peu de réponses, sauf l'îlot femme, là, qui nous a expliqué très clairement que non, ils ne souhaitaient pas nous parler. Alors bon, quelqu'un qui ne se présente pas, qui ne signe pas, nous répond « Nous vous remercions pour votre sollicitation et l'intérêt que vous portez à notre structure. Nous sommes au regret de décliner notre proposition. » Oui, mais ce sont des gens qui ne respectent pas l'égalité homme-femme, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas venir en parler. Alors effectivement, l'École nationale de police a répondu très gentiment en nous disant que ces thèmes-là étaient abordés et traités par les élèves policiers, qu'ils étaient formés, mais pour ne pas participer à l'émission, je me suis renseigné, ils n'en ont pas le droit. Les fonctionnaires de police et de gendarmerie n'ont pas le droit de participer, sauf autorisation du ministère de l'Intérieur. Bon, j'ai pas le bras assez long pour aller jusqu'au ministre ou au ministère, donc effectivement, on peut pas leur en vouloir, ils n'ont pas le droit de participer aux émissions de radio que nous leur demandons. Voilà, c'est tout pour les actualités, la suite...
RLP.
Radio Libre en Périgord.
J'arrive pas. Bonjour, je suis Michel Hamas, avocat à Marseille. J'interviens essentiellement depuis un an et demi dans les dossiers de placement d'enfants. À Angers, nous avons une situation qui est surréaliste. J'ai adressé 17 courriers à un magistrat sans qu'il ne me réponde jamais. Et on a un enfant qui a fait aujourd'hui sa 8e fugue. 8 fugues, ça veut dire que ça ne fonctionne pas du tout. 8 fugues, ça veut dire que l'enfant est en immense souffrance et sans que jamais le magistrat ne réponde à nos courriers. C'est ça que les gens vivent, c'est ça qui se passe, c'est ça qui n'est plus acceptable dans cette matière. Il faut que vous relayiez, il faut que les gens sachent ce qui se passe, ce qui est un scandale de la République. Les enfants placés, c'est un enfant, une mère qui demande à voir son enfant depuis 3 ans par des démarches, par une volonté, et qui est totalement écartée avec un magistrat qui est sourd à la souffrance de cette femme, à la souffrance de cet enfant, parce que 8 fugues, c'est pas n'importe quoi. À la fin de la fugue, il atterrit toujours chez sa maman, on est obligé de dénoncer quand l'enfant est chez elle, parce que si on dit rien, ils vont venir arrêter, et puis ça va être encore, on va encore éloigner cette femme. Du coup, elle a eu son enfant, qui est arrivé hier soir en souffrance, et ce qui s'est passé, c'est que, une fois de plus, on a écarté ces gens de la vie des enfants. C'est inacceptable.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Voici maintenant la suite de l'entretien avec Monsieur Joseph Zudas, que nous avons commencé la semaine dernière. L'émission se trouve bien entendu sur Internet, hein, pour avoir une rediffusion. Vous tapez Jaftamer sur Google ou sur YouTube et vous la trouverez assez facilement. Voilà, profitez-en bien, c'est un moment intéressant. Nous avons interrogé ici même Monsieur Jean-Pierre Winter, que vous connaissez, je crois, hein, qui parlait dans son dernier livre de l'affaiblissement de la position du père. Nous avons aussi interrogé Monsieur Gérard Nérand, qui est un sociologue extrêmement intéressant et important, qui nous a indiqué que statistiquement, nous voyons arriver une progression du nombre de familles monoparentales à très fortement de tendance féminine, on va dire. Hein, donc la mère est seule avec les enfants.
J'ajouterai à cause de ça beaucoup de cas de psychose.
Alors voilà, effectivement, on a du mal à voir les statistiques, hein, on en a parlé un petit peu avec tout le monde et tout, mais vous, en tant que psychanalyste, que pensez-vous des conséquences de notre société qui génère de plus en plus de familles monoparentales, gérées par la mère, qui sont seules avec l'enfant pour l'éduquer, et avec un père éloigné, mis à distance, qui est réduit à un rôle de payeur de pension alimentaire, et qui est exclu en fait du rôle d'éducant? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que c'est une nouveauté par rapport à une société.
Je vais le dire assez simplement. Je crois que aujourd'hui, on ne comprendra rien si on parle de santé mentale, si on écarte les récits qui sont faits aux psychologues, aux psychanalystes qui rencontrent, hein, voyez, si on écarte la véracité de ces récits. Deuxièmement, je crois que si je résumais ce que cette société produit comme malaise, c'est à travers le mode de jouissance qu'elle propose. C'est-à-dire que les idéaux, on va dire très simplement que quand j'étais jeune, pendant les temps de récréation au collège, je parlais de littérature, de cinéma. Aujourd'hui, les enfants parlent du dernier portable à la mode, de la console vidéo. On voit bien qu'à la place des idéaux, il y a un objet et un mode de jouissance comptable dans lequel l'ordre marchand est très présent. Hein. Là, c'est les vacances, on n'entend parler que d'économie. Hein, ça réduit, ça. On pense pas au trauma un petit peu quand même que. Bon, il y a ce confinement qui a renforcé l'individualisme. Vous avez entendu comme moi que beaucoup de couples se sont quittés. Alors on parle de ça, peu des enfants qui subissent ça. On dit qu'ils ont été maltraités par contre dans le confinement. Trop proches. Au fond, il y a une vérité des relations qui se mettent en place. Alors oui, je pense que la société, au fond, je vous le disais un peu abruptement, il semble qu'elle ait plus besoin de la fonction paternelle, de ce que le père, qui a été beaucoup critiqué, si vous voulez, le père, c'était une barrière, c'était quelque chose qui stoppait, qui arrêtait. Hein. Voilà, et d'ailleurs beaucoup de femmes parlent comme moi, hein, et même des féministes, qui sentent bien qu'il ne s'agit pas dans le féminisme d'écarter un homme ou le père. Mais effectivement, je crois que la société s'est rendue compte que ce père, au fond, qui produisait la névrose plutôt que la folie, puisqu'il y a une forme de psychose qui apparaît de plus en plus, très difficile à diagnostiquer, parce que on connaît la psychose avec les délires de persécution, celle qu'on met en hôpital psychiatrique. Mais aujourd'hui, celle qui apparaît, elle est ténue, hein, on appelle ça une psychose ordinaire d'ailleurs, hein, voilà, et dès qu'on remonte dans l'histoire, évidemment, le père n'a pas pu proposer au sujet une version de la loi pour ne pas l'amener à désirer ou à jouir n'importe comment. Hein. Donc, c'est lourd de conséquences. Je me rappelle cette histoire où il y a un gendarme qui est appelé par une vieille dame parce qu'elle a été cambriolée. Bon, il fait son enquête, très bien. Et le soir, il revient, il viole la vieille dame et il l'étrangle. Oh là. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oui, voilà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et on voit bien ce délit incestueux, hein, chez quelqu'un qui, mis dans certaines circonstances, avec quelque chose de très énigmatique. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Et on apprend qu'il venait d'apprendre 2 jours avant qu'il allait être père. Ah, vous voyez? C'est-à-dire qu'il n'a pas ce qu'il faut pour assumer ça. Il y a une angoisse terrible. Et devant cette grand-mère où il voit des photos de petits-enfants, de choses comme ça, hop, il y a la révélation tout d'un coup d'un manque radical.
Oui, mais
et enfin, il devient...
je vais devoir réagir, oui, quand même. Vous n'avez pas un petit peu l'impression que les pères sont quand même... un petit peu injustement, systématiquement sali dans la civilisation occidentale à ce jour,
oui,
parce que dans mes interviews, j'ai l'impression que l'on part trop facilement du présupposé que le père est dangereux, violent et inutile, alors qu'au niveau des statistiques, ce ne sont que des épiphénomènes, qu'il y a beaucoup plus de pères suicidaires ou victimes que de femmes qui sont victimes de violences, que les enfants victimes de violences statistiquement le sont de par leur mère. Ben, on peut pas donner les enfants uniquement aux mères et après avoir des statistiques, donc c'est les pères qui les agressent, hein. Donc les enfants sont agressés, oui, en majorité par les mamans, alors que lorsqu'on arrive sur le terrain de l'analyse, les conclusions disent que c'est le père qui est dysfonctionnant, qui est brutal, qui a des composantes animales, mais on n'a, oui, pas réussi encore à enlever ces composantes animales, oui, d'appropriation de la mère.
Aujourd'hui, quand on parle de vérité, c'est les statistiques qui répondent. Voilà. Donc, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse dans le cas par cas.
C'est parce que je viens de parler à un sociologue, c'est pour ça. Je viens de parler, je viens de discuter avec un sociologue.
Les sociologues, c'est pour ça, voilà. Les sociologues, c'est autre chose.
Bien sûr.
C'est autre chose.
Bien sûr.
Mais maintenant, dire qu'avec les statistiques, ils obtiennent la vérité, quand je parle avec eux, c'est autre chose. Bon. Il y a une utilisation des mathématiques dont on pourrait aussi beaucoup parler. Vous savez, les mathématiciens purs, lors d'un congrès récent, s'inquiétaient beaucoup de l'usage qu'on faisait des mathématiques, c'est-à-dire des additions et des soustractions, et un rapport à la marchandise. Les mathématiques, c'est pas ça. C'est des graphes, c'est une autre affaire. C'est, faudrait parler de la théorie des ensembles. Non. Mais je vais sans souscrire pleinement. Quand un père est pas bien parce qu'il a une psychose, parce que voilà, même dans ce cas-là, et vous allez voir, je pense qu'il y a un travail possible parce que quand il a une psychose, là, comme on l'a vu avec l'histoire du jeune gendarme, la question de la paternité l'inquiète. Mais si on se place du point de vue de l'enfant, il ne s'agit pas de résumer les choses en lui disant « ton père est dangereux ». Vous voyez, je vais à l'extrême. Hein ?« Ton père est dangereux, il est fou, donc il n'y a que ta mère ». Ça, ça va produire un ravage de son côté à lui. Je trouve, pour vous donner raison, qu'aujourd'hui, les gens qui parlent de la fonction paternelle, qui traitent des affaires du père, sont très peu ou mal formés. C'est devenu aujourd'hui quelque chose d'assez complexe, et les experts auprès des tribunaux, il y en a de très bons, je connais une de mes collègues qui fait un excellent travail sur ce plan, mais c'est de la psychologie. C'est-à-dire que la psychologie, vous savez, c'est une description généralisable de ce qu'est un père, un bon, un mauvais, mais rentrer dans le sens du cas, il y a peu d'experts qui le font et qui savent le faire. C'est-à-dire que si, de façon éthique, on rencontre un père à la demande du tribunal, il ne s'agit pas simplement de délivrer un rapport sur lui, il s'agit de l'aider à traverser ce moment difficile. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, dans la majorité des cas, et là je vais dans votre sens, il y a une maltraitance lors des jugements des parents. C'est pas des mauvaises personnes, des gens qui font ça, mais je crois que la question de la fonction parentale, de la fonction du père notamment, est devenue quelque chose de difficile si on n'écoute pas l'enfant, si on n'écoute pas le père et si on n'écoute pas la mère. Voilà, d'abord, souvent, ils n'ont pas le temps, les gens sont pas bien payés, il y a toujours eu ça, ils attendent des fois des mois avant d'être payés. Là aussi, hein, la question marchande a son importance. Mais en tout cas, si vous dites qu'aujourd'hui cette question est compliquée et que les pères en pâtissent, je suis d'accord.
N'est-ce pas un petit peu l'Occident qui est allé actuellement salir le père, la fonction du père, et comment se fait-il que l'être humain étant identique sur la planète, d'autres cultures, d'autres civilisations encore à notre époque ne font pas du tout ce processus-là? J'ai plusieurs cas qui sont comme ça, parce que
les
gens vivent beaucoup. Mais j'ai des personnes qui arrivent d'Europe du Nord, du Maghreb, d'Afrique, absolument, et on les traite comme si chez eux la place du père était aussi dévalorisée et aussi fragilisée qu'elle ne l'était chez nous. Et je me suis dit, en prenant un petit peu de recul, la place du père dans le traitement en psychologie, en expertise, en psychiatrie, en psychanalyse en Occident n'est pas analysée de la même manière qu'elle l'est aujourd'hui en Asie, en Arabie, en Afrique subsaharienne, en Europe du Nord, en Amérique du Sud, donc dans différentes cultures. Donc comment se fait-il que ce soit notre culture occidentale, ici plus particulièrement en France, qu'on parle de France, qui ait évolué ainsi alors que le reste de la planète ne l'a pas fait?
Oui. Alors, il y a une chose quand même, et ça, dans les structures élémentaires de la parenté, Lévi-Strauss, donc je ne sais pas si vous connaissez le nom de ce philosophe, ethnologue aussi, voilà. Il démontre que la structure oedipienne est présente dans toutes les cultures.
Bien sûr.
De façon différente. Par exemple, en Afrique, on peut pas, il est interdit dans les chemins qui mènent dans la forêt de rencontrer la mer. Il y a des tracés, vous voyez, là c'est l'imaginaire, après qui, bon. Mais effectivement, la construction symbolique des familles, selon la culture, elle n'est pas la même. La structure, elle va avoir à traverser une culture avec des mœurs, la cuisine, les manières de table que Lévi-Strauss a utilisé, a analysé avec le cru et le cuit, en situant le cru avant le dip et le cuit après, avec la culture, les mélanges. Donc, si vous voulez, c'est de là que le malentendu va démarrer. C'est-à-dire, effectivement, où l'Occident, quand on connaît l'histoire de l'Occident, vous le savez, l'Occident s'est installé avec des meurtres et des crimes qui sont en train de faire retour sur elle actuellement. Hein, on fait semblant toujours d'oublier ça. Donc, effectivement, il y a une suprématie, une façon de mettre les sauvages d'un côté et de s'éprouver comme ne l'étant pas. Lévi-Strauss, c'est quelqu'un qui a rétabli les choses, justement. Il a montré que dans certains, la culture avait commencé bien avant nous, en Afrique, par exemple, dans certaines régions. Donc, on en revient à ce que je vous disais, toujours à la question de la formation, des malentendus, des confusions, des formations biscornues dispensées par les sciences humaines à l'université. Les sciences humaines, elles ont proprement détruit ce qu'on appelait l'homme à travers une construction et des concepts. C'est-à-dire disant, un homme, c'est ce que je dis dans les sciences humaines. Donc évidemment, vous vous rendez bien compte que quand on approche des gens en les écoutant, il faut être capable d'enlever ça et de se tenir là, et il vaut mieux avoir fait une analyse personnelle, avec sa propre subjectivité. C'est là où sont induites les confusions, où tout d'un coup le sujet, celui qui écoute, celui qui reçoit l'être en souffrance, il peut pas aller au-delà de ce qu'il n'a pas traversé lui-même. Donc effectivement, vous mettez là le doigt sur le drame actuel pour décider dans le cas par cas. Moi, je me suis séparé deux fois. Écoutez, j'ai toujours compris qu'il fallait rester amis et j'y suis arrivé. Ça n'a pas été simple. Il a fallu que je me sépare d'un certain nombre de choses, de jugements. Mais cette amitié est là et à chaque fête des mères ou des pères, on se félicite mutuellement d'avoir mis au monde des enfants qu'on aime, qu'on a soutenus ensemble. Voilà. Est-ce que j'y serais arrivé sans avoir fait une analyse personnelle? Peut-être, mais pas aussi heureusement. Hein? Voilà. Oui, moi, dans ma pratique, moi, je rencontre beaucoup de pères qui viennent pour dire « aidez-moi à retrouver mon enfant ». C'est pas que je veux disqualifier, mais je veux participer à son éducation. Et quand je remonte un peu avec lui le trajet, je vois bien les malentendus qui ont existé. Et je reçois tout type de père, aussi bien quelqu'un qui sort de prison que quelqu'un qui a un travail, qui a, c'est-à-dire un sujet qui a peut-être des symptômes, comme disait l'autre qui n'en a pas, mais pas au point d'être écarté. Vous voyez?
D'accord.
Mais bon, moi, je reçois des pères qui boivent, qui sont malheureux parce que ils savent pas comment s'arrêter, et en même temps, pour autant, ils me donnent pas l'impression, à part leur souffrance, d'être de mauvais pères. Vous voyez jusqu'où je vais, hein? Voilà, parce que s'il vient me parler, je dois tenir compte de cette demande chez lui de participer à l'éducation, même si pendant un temps, parce que dès que je me mets à soutenir ça, figurez-vous qu'il va mieux.
Bien sûr.
Il trouve du travail. Vous voyez ?
Bien sûr.
Au lieu. et voilà.
Non, mais nous portons nos enfants, mais nos enfants nous portent. Hein. Le père d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Et le fait de s'impliquer dans l'éducation de nos enfants a aussi entraîné des mécanismes de réciprocité et de souffrance. Quand on ne peut le faire, c'est une évolution qui est tangible.
Oui. Mais je vous dirais que actuellement. Les structures qui sont nécessaires à l'enfant pour se construire, même quand le père est angoissé, n'y arrive pas, l'enfant peut prélever dans le tissu social quelque chose qui lui permet de trouver des suppléances. Mais c'est pas pour autant que ce père qui a du mal, il s'agit de l'écarter. Parce que il est aussi le géniteur.
Parce que très franchement, écarter le géniteur pour pousser à la construction d'une cellule monoparentale où l'enfant va chercher des palliatifs, c'est un peu ridicule.
Et qui coûte à la société.
C'est un peu un non-sens. On marche sur la tête.
Il y a un non-sens, absolument.
Alors nous allons rappeler que vous recevez sur Périgueux. On peut vous trouver sur Internet. Vous pouvez dire comment
alors,
on peut vous trouver.
Au centre de consultation Gabriel Accueil, on va aller au plus simple, faire le numéro de portable que vous avez fait.
D'accord.
Et après,
dites-le nous.
Après 0609 13 89 22. Et donc, on accueille aussi bien les gens en précarité que les gens en crise, en souffrance, qu'ils aient des moyens ou pas, ils sont interpellés violemment par le comportement de l'un ou de l'autre, de l'enfant.
D'accord. Merci, c'était Joseph Zudas sur RLP pour non-exclusivité.
Merci.
Vous avez une petite rubrique aussi qui passe à la radio, je crois, de temps en temps.
Une chronique, qui s'appelle « La psychanalyse et la société ».
Parfait, très bien. Merci, à bientôt. Merci.
À bientôt.
Au revoir.
Merci.
Au revoir. Voilà, c'était Stéphane, prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine. N'oubliez pas la rediffusion mercredi. Ciao, ciao.
J'arrive.